Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 1h en temps universel, 3h à Goma.
Mathis Limano.
Au sommaire, le risque d'épidémie dans la capitale du Nord Kivu, en RDC. Les organisations humanitaires mettent en garde. Les morgues saturées des hôpitaux et les corps qui jonchent les rues peuvent provoquer des épidémies alors que la situation humanitaire est déjà très critique. L'offensive lancée la semaine dernière par le M23 appuyée par le Rwanda a fait près de 3000 victimes, estiment les Nations Unies. Des pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine, Volodymyr Zelensky y est prêt. Il l'a dit lors d'une interview à la télévision britannique. Mais seulement si c'est la seule condition pour obtenir la paix. À suivre aussi, le scandale des eaux en bouteille prend de l'ampleur en France. Une enquête de plusieurs médias souligne la responsabilité de l'État français. Près de 3000 morts à Goma suite aux affrontements de la semaine dernière entre l'armée congolaise et ses alliés, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est le dernier bilan encore provisoire donné par les Nations Unies. 2000 personnes ont été enterrées et 900 corps sont toujours dans les morgues des hôpitaux et des cadavres toujours en décomposition dans la ville. Les organisations humanitaires craignent ainsi des épidémies. À Kinshasa, députés et sénateurs étaient réunis en session extraordinaire ce mardi pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour la première fois depuis l'offensive sur la ville de Goma, les élus sont appelés à s'exprimer au cœur des discussions. La situation sécuritaire et les différentes voies de sortie de crise, alors que sur le terrain de la situation humanitaire, elle est catastrophique, explique Michel Moto, député du Nord Kivu.
Nous allons parler sur tous les aspects. Il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect économique, l'aspect politique, diplomatique, pour pouvoir dégager des pistes de solutions afin de mettre un terme à cette crise. Parce qu'au-delà de la guerre, il y a la crise humanitaire, et cette crise humanitaire ne fait que s'aggraver chaque jour que nous perdons dans des conciliambules, dans des discussions. Et donc c'est comme ça que tous les élus du peuple que nous sommes revenus à l'appel de nos bureaux, à l'appel du chef de l'État. Nous avons été reçus par les chefs de l'État, les élus du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et quelques propositions ont été faites au chef et il en a pris bonne note. Et il nous a aussi fait part de ce qui est en train de se faire parce qu'il ne faut pas croire que rien ne s'est fait. Il y a plusieurs initiatives dans tous les domaines et nous espérons que d'ici là, les solutions vont arriver.
Michel Moto, député du Nord Kivu, au micro d'Alexandra Banjon. Cette nouvelle déclaration choc qui nous vient de la Maison Blanche, alors qu'il reçoit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump affirme que les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza à long terme. Développer le territoire palestinien en démantelant les bombes n'ayant pas explosé, en rasant les bâtiments détruits, voilà le plan du président américain. Une décision pas prise à la légère, insiste-t-il, lui qui promet de se rendre à Gaza. Un plan qui pourrait changer l'histoire, estime Benjamin Netanyahou. Le premier ministre d'Israël affirme lui qu'un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite va avoir lieu. Un nouveau bombardement tue au moins 5 personnes et en blesse des dizaines en Ukraine. Le missile a frappé le centre-ville d'Izium dans la région de Kharkiv à l'est du pays. Les secours sont encore sur place. Ils s'activent pour rechercher des survivants dans les décombres. Emmanuel Chaz.
L'information a été donnée par le gouverneur de la région Kharkiv, Oleg Sinebouhov. À Izium, il y a eu plusieurs morts et des dizaines de blessés suite à une frappe de missiles balistiques russes qui a endommagé un centre administratif ainsi que plusieurs bâtiments résidentiels. Selon le gouverneur, il n'y avait aucun bâtiment militaire dans la zone visée. Reste que cette ville, située à environ 50 km à l'ouest de la ligne de front, est un lieu de passage important pour les soldats ukrainiens et les humanitaires, entre autres. Une ville qui fait lien entre celle de Kharkiv et la région de Donetsk. En proie au combat. Izium, dont la population avant-guerre s'élevait à 45 000 habitants, est aussi devenue tristement célèbre après sa libération en septembre 2022, après 6 mois d'occupation russe, pendant lesquels 447 civils et soldats ont été torturés, puis exécutés et jetés dans les fosses communes à l'entrée de la ville. La ville est régulièrement la cible des bombardements russes par missiles ou par drones. Comme à son habitude, lors d'une frappe d'ampleur, le président Zelensky a dénoncé cette attaque, affirmant qu'une telle brutalité ne saurait être toléré et appelant les alliés de l'Ukraine à exercer une pression maximale sur la Russie afin que ces bombardements cessent. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et sur le terrain diplomatique, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à entrer en négociation directe avec Vladimir Poutine si cela peut faire revenir la paix en Ukraine. Dans une interview à la télévision britannique, il a suggéré que des pays tiers, notamment européens, devraient assurer un rôle de médiation. Son homologue russe s'est toujours refusé jusque-là à entrer directement en négociation avec Kiev. En Suède, cette fusillade meurtrière dans une école. Une dizaine de personnes tuées par un tireur inconnu des services de police dans un centre d'enseignement pour adultes à Orbro, à environ 200 km à l'ouest de Stockholm. La police écarte pour l'instant la piste terroriste. Le tireur présumé qui a fait irruption en plein cours aurait également été tué lors de l'intervention. Selon la presse suédoise, il aurait retourné son arme contre lui.
RFI.
En France, des médias accusent l'Élysée et Matignon d'avoir cédé au lobbying du groupe Nestlé, et ce en laissant le groupe commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et à risque pour la santé, malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires. À l'Assemblée nationale, Victorien Villaume.
Scandale d'État à gauche, les mots sont forts pour commenter cette présumée entente entre l'exécutif et Nestlé. Cyrielle Châtelain, députée écologiste.
Tout est choquant, le fait que Nestlé ait pu continuer à exploiter des sources qui ne devaient plus être exploitées. Les cabinets des ministres étaient impliqués dans cette affaire, le fait que c'est coûté des milliards d'euros aux consommateurs directement.
Il faut établir précisément les responsabilités, complète l'insoumis Adrien Clouet.
Le Parlement dans son ensemble doit se saisir du sujet. On ne peut pas protéger une clique de macronistes. Si des gens délibérément dans ce pays en empoisonnent d'autres pour distribuer des dividendes, oui, ils sont passibles de la justice.
Également dans l'opposition, mais à l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national prend acte, mais reste prudent. Laurent Jacobelli.
On ne peut pas décider simplement sur l'enquête d'un journaliste. Il faut être sûr avant d'accuser. Mais effectivement, il y a un faisceau d'indices pour laisser imaginer que l'Élysée est assez perméable aux demandes des grands groupes.
Malaise palpable dans le camp présidentiel, personne ne souhaite répondre. En marge d'un déplacement, le président Macron lâche tout de même quelques mots.
Il y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit, il y a un travail qui est fait.
Sollicité, l'Élysée reconnaît avoir été contacté par Nestlé, mais affirme avoir renvoyé les intéressés vers les services de l'État compétents.
Et notez qu'une commission d'enquête sénatoriale se penche déjà sur le sujet depuis décembre dernier. C'est le devoir de notre commission de vérifier si l'Élysée est en cause. Nous irons au bout de la vérité, a commenté le sénateur socialiste en charge de la commission Alexandre Vuizier. Le gouvernement Bayrou épargné et bientôt un budget pour la France. Le Rassemblement national a mis fin ce mardi au suspense. Le parti ne votera pas les motions de censure déposées à l'Assemblée par la France insoumise. Avant cela, les socialistes avait annoncé ne pas voter non plus la censure, une décision courageuse a salué le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Ces motions de censure examinées ce mercredi découlent de l'activation de l'article 49.3 par François Bayrou. Serge Atlaoui doit poser le pied en France ce mercredi. Ce citoyen français emprisonné depuis 17 ans en Indonésie a été extrait de sa cellule mardi. Il est maintenant en route pour Paris. Serge Atlaoui avait été condamné à la peine capitale en Indonésie pour trafic de drogue, ce qu'il a toujours nié. C'est une victoire de la vie sur la mort, a déclaré son avocat. Avec près de 600 millions d'utilisateurs, elle est la première plateforme de streaming musical au monde. Spotify annonce faire les premiers bénéfices de son histoire. Depuis sa création il y a près de 20 ans, jamais l'entreprise n'avait réussi à être rentable. Oriane Gendreau.
20 ans d'existence et enfin, Spotify n'est plus dans le rouge à la fin de l'année. La plateforme suédoise a annoncé ce mardi avoir réalisé un bénéfice de 1 milliard 100 millions d'euros l'année dernière, alors qu'elle était encore largement en perte en 2023. Une performance qu'ont anticipé les investisseurs, le cours de son action a grimpé de plus de 200% depuis début 2024. Des chiffres qui s'expliquent grâce à la nouvelle politique de son cofondateur Daniel Ek, qui met maintenant l'accent sur la rentabilité. Et pour ça, le groupe suédois surveille ses coûts, même dans le marketing, et a augmenté les prix de ses abonnements. Des prix plus élevés donc, qui n'ont pas dissuadé les abonnés de la plateforme. Spotify détient à elle seule plus d'abonnés payants que YouTube Music, Apple Music et Amazon Music réunis. Fort de ces résultats, le groupe suédois est confiant. Il s'estime bien positionné pour réaliser une nouvelle année de croissance.
Oriane Gendreau, service économie de RFI. Et puis un mot de football. Le PSG s'impose sans surprise en Coupe de France sur la pelouse du Mans. Deux divisions d'écart entre les deux formations. Paris qui file donc en quart de finale. Billet composté aussi pour l'écart et pour Brest. Victoire 2-1 contre l'Estac. L'autre club de Ligue 1 à jouer, c'était Lille. Les Lillois qui se font sortir de la compétition par Dunkerque, équipe de Ligue 2. Les Dunkerquois vont en quart de finale au terme d'une interminable séance de tirs au but. RFI, il est presque 2h10. À Paris, 1h de moins. Anthony Varcel, je vous laisse en bonne compagnie avec Caroline Paré et Priorité Santé.